Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Mille et Une Bulles. Vous êtes bien sûr sur Radio Présence Figée à 97.7. Cette fois, nous retrouvons un dessinateur scénariste qui se nomme Jean-Luc Garrera. Jean-Luc, comment vas-tu?
Salut, ben écoute, ça va très bien, très bien.
Donc écoute, merci à toi d'être venu aussi parmi nous. On a eu, tu vois, Olivier Sulpice de Bambou il n'y a pas longtemps. Donc il nous a parlé.
Ouais, ben, en fait, j'ai pas eu l'occasion malheureusement de le regarder. Je suis toujours en retard, mais je vais le regarder. Enfin, l'écouter plutôt.
Oui, oui.
Pour entendre un peu le boss à la radio avec sa voix suave.
Non, il a pas dit trop de bêtises. Il m'a dit que par contre dans les autres podcasts comme William, Stédo ou tout, il avait écouté s'il n'y avait pas de bêtises. En rigolant, bien entendu. Donc déjà, on va commencer simplement, s'il te plaît, si les BD qui ont bercé ton enfance.
Ben écoute, je te dirais que personnellement, j'hésite un peu parce qu'effectivement, j'en ai beaucoup. Mais là, je suis tenté de citer en premier, avant tout, c'est Gaston Lagaffe. Pour moi, c'est vraiment le B.A.B.A., quoi. Mmh. Et on va dire les classiques. Allez, Astérix, Gaston Lagaffe, Lucky Luke. Hein. Mais ça, je veux dire, c'est ma prime enfance, on va dire, parce que c'est ce qu'on voit en premier. Et après, très rapidement, j'ai découvert le journal de Spirou, et ça a été vraiment Kiki et Natacha, Gijourdan, tu vois, ça, c'est ce qui a remplacé rapidement les classiques, enfin, ne remplaçait pas complètement, puisqu'on les lit toujours, mais ça a toujours été, finalement, beaucoup plus fort, ce genre de bande dessinée-là, quoi, Spirou, évidemment, en fait, que ce soit par Franquin, Fournier, Tom et Jean-Ri, et Natacha, parce que Walteri, effectivement, fait partie de mes références absolues. Et ouais, la majorité des BD de Ron Cohen aussi. Mon papa, mon Jedi, on va dire, mon papa spirituel.
Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Pardon, ce que tu viens de dire. Parce que j'ai su, donc, quand j'ai regardé sur Google, que tu as collaboré donc dans tes débuts à Mikado, Mickey, et notamment Spirou, que tu viens de parler. Donc comment s'est passé cette période?
Cette période, en fait, ça a été très court finalement pour Spirou, parce que j'y suis revenu quelques années après. Ça a été au début, alors donc on va dire, on va partager en deux parties distinctes, puisque c'est vraiment le cas. Ça c'est à mes tout débuts, j'ai pas d'album, rien du tout, j'essaie simplement voilà de percer. Je fais des petits dessins, je travaille beaucoup pour la presse, parce que les dessins c'est ce qui était finalement le plus facile, entre avec des gros guillemets, hein, mais le plus facile à présenter et à être accepté ou pas. Tu montres un dessin, l'éditeur te dit « Ah, ben, ça me plaît, ça me plaît pas ». Alors qu'un scénario, c'est flou pour moi, tu vois. Je me disais, je voulais faire du scénario, mais je comprenais pas trop comment je le présente. Est-ce que j'écris? Est-ce que je dessine un peu les trucs? Je savais pas trop. Donc du coup, je m'étais axé sur le dessin que en magazine, donc pas d'album. Et je travaillais pour le premier journal qui m'a fait travailler, justement, c'est Mikado, qui est justement situé pas très loin de chez moi. Moi, je suis sur Narbonne, ils étaient à Toulouse, et lors d'un festival, j'avais montré mes dessins, comme on faisait beaucoup avec Alain Julliet, tu sais, avec qui je travaille sur les vélomaniacs, puisqu'on est du même bled. Et là, voilà, le gars de chez Mikado, ça a été le premier à me proposer de travailler professionnellement, quoi, pour un journal. Je faisais des rubriques, j'ai fait bêtement le courrier des lecteurs, des choses comme ça, tu vois, il me confiait des petits trucs, mais ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Le journal de Mickey, pareil, ça a été du jeu. Les DHP, en fait, pour Disney, Hachette Press. Je faisais des jeux du journal de Mickey, je faisais quelques petites des strips, des trucs comme ça. Ça a duré plus longtemps, ça. Et par contre, le Spirou, c'était par rapport à la formation que j'ai eu droit, une petite formation à distance que j'ai eu droit avec Raoul Covin, donc grâce à Pierre Soron, qui m'avait branché avec Raoul Covin, donc Pierre Soron, un des petits hommes. Et Pierre trouvait effectivement, je parlais beaucoup de scénarios, tout ça, donc il m'a dit, écoute, voilà, moi je peux pas te dire, je vais te donner le numéro de Covin, tout ça, mais comme je trouve que t'es vraiment dans son genre, que tu, on sent que tu aimes beaucoup Raoul tout, tu me laisses tes photocopies, tout ça, je les montre à Raoul, et si un jour il t'appelle, sinon, ben, tant pis. Moi j'étais encore chez mes parents. Et donc du coup, un jour, Raoul m'a rappelé, et pendant 3 ans, on a vécu une sorte de relation prof-élève parcours. Évidemment, Jeune, ça va les choquer, mais il n'y a pas le mail, il n'y a pas tout ça. Donc, du coup, j'ai envoyé au mieux un fax et sinon des courriers. Les Raoul me corrigeaient tout ça. Et à partir de là, du coup, j'ai fait des petites bouches-trous dans Spirou, quoi. À ce moment-là. Mais là, du coup, on est quoi, début 90, ouais, 90 par là, au milieu 90.
Mais ça...
et c'est quelques années après que je suis revenu avec Serge Hern, vraiment là, un album avec Zapping Génération, quand Serge m'avait proposé de reprendre le scénario de sa série, des Zappeurs dans Spirou. Donc là, j'étais revenu. Parce que la première fois, finalement, ça n'a pas été très long, ça a été quelques trucs. Et après, j'ai commencé chez Bambou et tout ça, donc. Tout s'est un peu croisé finalement au début. Après, ça, c'est plus linéaire, hein, les années. Donc, les années Bambou, effectivement, avec Olivier Sulpice, que j'ai reçu. Et après, le reste, droit au but, tout ça. Tout est devenu un peu plus linéaire, j'ai plus fait de presse et tout ça. Mais à l'époque, ça se croisait un petit peu parce qu'on pouvait pas vraiment. Enfin, moi, je pouvais pas financièrement lâcher la presse qui me faisait quand même un peu vivre. Parce que j'étais pas sûr de faire vraiment de la BD, quoi. Donc, ça s'est chevauché, voilà. Les années Mikado, Mickey, Spirou, et après c'est devenu Bambou, et à partir de Bambou, parce qu'Olivier était le premier à me faire du scénario, mais c'est le premier qui a eu confiance au scénariste que j'étais. Et voilà, la chronologie était comme ça, tu vois.
D'accord, mais avant d'aller au Bambou, parce que oui, c'est là que tu as fait pas mal d'albums, je voudrais rebondir quand même sur Raoul Cobain, parce que c'était quand même un grand monsieur du scénario BD. Il représente, avant de le rencontrer vraiment, il représentait quoi pour toi, Raoul Cobain?
Ben moi, Raoul, c'était mon scénariste de référence. C'est le genre de... À l'époque, je pense que c'est le genre de scénariste que je rêvais d'être, hein, ce qui est plus vraiment le cas maintenant. Alors, pas par rapport à lui, bien sûr, puisque évidemment, je le vénère toujours autant et je le regrette chaque jour pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout le monde, d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était le côté que, ben, moi, je voyais les filles que bleues, je voyais les femmes blanches, je voyais tout ça, et je voyais vraiment le dire, tu fais plus que du scénario, tu fais que ça toute la journée, t'en fais plein à foison et tout. Et c'est vrai que mon but, c'était de me lancer dans ça. Et finalement, maintenant que j'ai quand même la partie droite au but où je dessine, maintenant je fais aussi le scénario, mais je dessine depuis 20 albums, hein, la sortie de 20 cette année. C'est vrai que maintenant je m'imaginerais plus scénariste total, tu vois. Ne pas dessiner, ça me manquerait quand même. Alors j'ai plus vraiment cette image que j'avais au début en me disant quand je serai grand, je serai Raoul Cobain parce que je ferai que du scénario et puis je peux dessiner. Je serais assez heureux de faire que du scénario. Là maintenant, je sais que non, c'est pas trop possible. Dessiner, ça fait quand même du bien. C'est une partie de moi, même si je suis pas le plus amoureux de mes dessins. Heureusement, il y en a d'autres qui les aiment bien, ça va. Mais moi, je suis plus critique envers mon dessin qu'avec mes scénarios. Mais voilà, Raoul, pour moi, c'était vraiment le scénariste phare. Il y avait évidemment, inévitablement, les Goscinny, puisque je parlais de ça tout à l'heure. Goscinny, Godard. Plein d'auteurs, là je cite surtout dans le côté jeunesse, mais il y avait des mecs que j'aimais beaucoup, évidemment, mais je sais pas, Raoul me correspondait, j'aimais bien son état d'esprit, sa production, sa facilité à faire du scénario, donc c'était une référence pour moi, mais je l'avais jamais rencontré, vraiment, quand Pierre me l'a branché, j'y ai parlé au téléphone, je l'avais jamais vu, hein. je l'ai vu que quelques années plus tard. J'ai habité 2 ans en Belgique après. C'est en 1996, je crois. Donc, j'avais habité 2 ans en Belgique. Et donc là, j'ai un peu plus vu Raoul, on s'est rencontré plusieurs fois. Et à partir de là, je l'ai un peu plus vu. C'est pas celui que j'ai le plus vu, parce qu'il venait pas toujours dans les festivals par ici. Assez rarement dans le sud, mais en tout cas, oui, après, j'ai beaucoup plus vu. Puis surtout, on se parlait beaucoup, je l'avais assez souvent au téléphone et par mail après quand il
est. Et du coup je vais rebondir à maintenant que voilà tu m'as parlé de Raoul Cobain justement sur la BD droit au but de l'OM comment on t'a proposé à l'époque c'est vrai qu'il y a 20 tomes donc c'est vrai que c'est une série qui marche très bien comment on a proposé donc à Jean-Luc Garrera de faire une BD sur l'OM ce qui est quand même un club assez légendaire donc comment on t'a proposé cette offre?
Ben figure-toi qu'on me l'a pas proposé.
Ah.
Non, c'est une situation, comme souvent quand on revient sur des dossiers, des choses qui sont passées il y a longtemps, tu te dis des fois c'est fou parce qu'à quelques détail près, la vie se passe pas comme ça. Moi, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, donc, c'est la fameuse époque dont je te parlais, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, une époque où Raoul avait croisé mon chemin et pour moi, tout changeait. Raoul me conseillait de faire des dossiers, il me les corrigeait, il disait, ben ça, je trouve que c'est publiable maintenant, vas-y, donc je présentais un éditeur à un autre. Et lui me servait de carte de visite et il disait, ben voilà, t'hésites pas à dire que je l'ai vu, pour ce que ça vaut, en tout cas, que voilà. Et donc, moi, je me disais, je vais être scénariste, c'est tout. Et je voulais plus dessiner, littéralement. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais dit, ben, le dessin, merci, au revoir. Et j'avais jamais fait d'album, du coup, comme je disais, j'ai fait que de la presse. Donc, j'avais beaucoup dessiné pour la presse, j'ai fait des centaines de pages, mais pas d'album. Et ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé pour, donc, j'avais commencé chez Bambou, avec les Vélomaniacs. Et cet éditeur-là, Hugo et compagnie, en fait, faisait son secteur BD. À ce moment-là, il le commençait. Donc, du coup, je crois que c'est Bertrand et Caro, les BK, qui m'avaient branché, ils m'avaient dit, on a discuté avec un directeur de collection là, d'une nouvelle édition, il aimerait avoir des scénaristes, tout ça, on y a parlé de toi, tu devrais le contacter. Bon. Et du coup, j'avais fait un album avec eux, déjà, quand l'OM a manifesté l'envie de faire une BD, parce qu'il faisait déjà des calendriers, c'est des licences, donc des calendriers, des bouts livres, tout ça, cet éditeur-là. Et le nouveau secteur BD, eh bien, était en charge de faire une bande dessinée pour le club. À part que ben, le club ne savait pas trop quel dessinateur il voulait. Ce que Hugo leur présentait ne leur convenait pas. Et donc, moi, le directeur de collection, Jean-Baptiste, à l'époque, m'appelait en me disant, écoute, il faudrait que tu, dans tes contacts dessinateurs, est-ce que tu peux pas me trouver un gars qui pourrait dessiner ça, parce que la personne qui correspond, qui plaît à l'OM, quoi. Donc, moi, j'ai proposé un peu autour de moi, des copains, il y en a qui ont fait des essais, il y en a qui avaient branché fort, qui n'avaient pas le temps, et tout ça. Mais en tout cas, ça passait pas. Et donc, un jour, il me dit, bon, écoute, vu que tu dessines, fais-moi une page, hein, un essai. Je sais que tu veux pas dessiner, mais fais-moi une page, au moins on a le temps de chercher quelqu'un d'autre, le temps qu'il se décide et tout ça, tu vois, il y a généralement. Comme ils ont autre chose à penser, ça dure une quinzaine de jours, peut-être, tant qu'il répond. Et moi, donc, j'ai fait, en traînant les pattes, j'ai fait un truc pour un autre service, quoi, j'ai fait une page, hein, mais j'ai dit, mais moi, je vais avoir un dessin très classique, très franco-belge, donc, je sais pas si ça leur plaira, mais il dit, ouais, mais c'est pas grave, c'est pour gagner du temps. Donc, du coup, j'ai fait une seule page. Le dossier était quand même assez complexe, fallait créer des personnages, faire plein de trucs. Moi, j'ai fait une malheureuse page. Et deux jours après, ils m'ont rappelé en me disant, ben, c'est ça qu'ils veulent. Voilà. Alors qu'en fait, moi, j'étais là que pour essayer de gagner du temps, quoi. Donc, du coup, on peut pas dire qu'ils me l'aient proposé directement à moi. C'est simplement que quand ils ont vu, ben, la page que j'ai fait, ils ont dit, ben, voilà, c'est ça. Comme c'était très jeunesse au début, parce que c'était vu la chronologie de la BD, c'est fait pour faire la croissance. C'est un des rares personnages de bande dessinée qui grandit. Finalement, Nino, ça, pas souvent. Et au début, il a 7-8 ans, on voulait un dessin un peu naïf pour ça, et après monter dans le niveau graphique pour faire le style que maintenant on a, qu'on bouge plus.
D'accord.
Voilà, et du coup, c'était pas prévu, c'était simplement que j'ai fait les boost-trous, et finalement, c'est le boost-trou qu'on a pris. Tu vois, ça, à mon plus grand étonnement, parce que moi, j'étais persuadé que je dessinerais plus. Finalement, j'ai un album plus tard, tu vois, j'ai décidé de voir.
Oui, mais en fait, j'allais dire pour un boost-trou, c'est c'est une réussite. On va être obligé d'arriver à la pause musicale, mon Jean-Luc. On parlera après parce que donc c'est Les Fatales Picards que t'as choisi avec Suisse et les Cailloux. On en parlera plus tard parce que je sais qu'à la base t'as fait un album sur eux parce que c'est aussi des amis. Donc on en parle juste après la pause. Hein, je m'excuse, on va lancer la pause et on en parle juste après. Merci à vous et on reste sur Radio Présence Figeac 97.7. Merci.
Présence à Figeac 97.7.
Si t'es pro-israélienne, j'ai des oranges de Jaffa. Si t'es pro-palestinienne, j'ai du café de Gaza.
Si t'es pro-tibétaine, j'ai du TD au plateau. Si t'es pro-américaine, j'ai même du Coca-Zéro. Tous mes produits sont cachers, stockés dans de frigidaires. Si tu fais le ramadan, je le fais évidemment. Pour ce qui est de l'alcool, si jamais tu conduis, si jamais tu tombes enceinte, je boirai pour de promis. Et si rien n'est à ton goût, comme je t'aime plus que tout, on vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de minéraux, tout simplement merveilleux. Végétarienne, je remplacerai mes posters de foie de veau par des posters de boulgour de pommes de terre. Je suis sensible, c'est sincère, à la souffrance animale. Nos poules pondront en plein air des œufs sous péridurale. Et si tu deviens végane afin d'éviter les drames, je ne porterai plus de cachemire, je n'irai plus aux soirées cuir, je n'irai plus jamais au cirque, je n'irai plus jamais au zoo. Et si tu pars en croisade pour la survie des salades, je militerai pour qu'il n'y ait plus de tuerie de bébé laitue. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aime vraiment, on échangera nos cailloux.
Des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements.
Est-ce vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires, de te couvrir d'eczéma, de tomber dans le coma, de partir comme ça c'est bête à cause d'une simple baguette? Tu vas beaucoup me manquer, je m'étais presque habitué à te regarder mourir tendrement sur le canapé. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. Nos cailloux.
Et voilà, nous retour à l'antenne des mini-bulles que je consacre cette semaine avec Jean-Luc Garrera, qui était avec nous. La pause musicale, donc, c'était les Fatal Picard, Jean-Luc, et je sais que tu as fait un album sur eux, mais je pense que c'est des amis aussi, c'est ça?
Alors, ce sont de très vieux amis, ça nous vieillir trop à tous, mais effectivement, les Fatal, c'est une longue histoire, en fait, c'est plus de 15 ans maintenant. Qu'on se traîne un petit peu sur les routes quand on a l'occasion de se rencontrer, bon, par téléphone, par WhatsApp, par tout ça. C'est vraiment une relation, une vieille relation, on va dire. Et ça fait longtemps qu'on se dit, une BD sur les Fatales, c'est plus ou moins inévitable vu les connaissances, mais sachant comment ils sont pour moi, hein, ça a toujours été, quand je suis avec eux, en fait, les soirées où je suis avec eux, j'ai toujours l'impression d'être dans Scooby-Doo un petit peu. Ils sont dans un état d'esprit un peu fou, un peu très 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 joyeux, très sérieux évidemment dans leur concert, dans leur boulot, mais ils ont une folie qui m'a toujours inspiré, quoi. Mais bon, vous voulez trouver le bon angle, faire un bon truc, faire autre chose que ce qui se fait habituellement sur les groupes de rock ou les chanteurs. Ils avaient déjà eu d'ailleurs une bande dessinée qui avait été consacrée à leurs chansons, c'est comme ça se fait beaucoup, les chansons de tel truc en BD. Nous, on voulait une création originale, et donc ça fait un petit moment que j'avais pensé à ça, et quand on se voyait, on en parlait, des fois j'emmenais des petits dessins et tout, mais même problème que tout à l'heure, tu vois, j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur dans mon boulot, moi j'ai toujours l'impression que je suis pas vraiment à ma place, et donc du coup je me sentais pas de le dessiner. Eux au début, ils s'imaginaient que j'allais le scénariser, de dessiner, de mettre en couleur et tout. Et moi, je disais, je suis sûr qu'on peut trouver quelqu'un qui le mettra en valeur plus que moi. Donc, moi, je faisais des petits crobards au début pour quand même donner une idée du truc. Mais voilà, on n'était pas pressés, ils ont de quoi s'occuper. Moi, j'avais de quoi m'occuper aussi. C'est à ça aussi, il y a le problème du reste, quoi. On a quand même déjà nos engagements. Et puis, un jour, on va savoir pourquoi, alors que je connaissais Juan depuis quand même presque autant, J'avais jamais pensé à Rouen, qui pourtant est un amoureux de musique, de rock, on est dans les mêmes goûts en général, et en plus on avait envie de bosser ensemble, si vous voulez. Et voilà, et un jour, avec Rouen, on a dit, tiens, faut qu'on fasse quelque chose, et on a présenté quelque chose à Olivier Sulpice, donc chez Bambou, qui n'était pas du tout ça, mais qui, voilà, Olivier, il dit non, le sujet ne me branche pas trop, mais j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose tous les deux, il me dit, cherche-moi une autre idée, un autre sujet. Et voilà, on a réfléchi, en tout cas de mon côté surtout, j'ai réfléchi côté scénario. Et finalement, je me suis dit, bah oui, finalement, il y a les Fatales, pourquoi pas. Donc j'ai parlé aux Fatales en premier de Rouen, voilà, pour leur pour pas mettre Rouen dans la situation au cas où ça ne correspondait pas, ce qui m'aurait étonné, mais on sait jamais. Mais vu que c'est quand même sur eux, je voulais quand même en parler avec eux, leur montrer ce qu'ils faisaient, lui dire ben, tout le bien que je pensais du boulot de Rouen, qui est quand même. Je pense, j'aime pas dire du bien, mais je pense que c'est quand même un des plus doués de notre génération, franchement, c'est un tueur graphiquement. Et donc ils ont été ravis de suite, ils ont dit bah oui, super, on peut. Donc du coup j'en ai parlé à Rouen, qui a été tout aussi emballé, et finalement, voilà, en même pas un an, tout s'est décoincé, alors que ça fait des années qu'on y pensait sans vraiment avancer. Et là, voilà, on a montré un essai à Olivier. Olivier, au début, voyait pas trop ce que je voulais faire, il croyait que c'était bêtement un truc sur la musique et tout ça. Mais Olivier, sans faire offense, c'est pas le mec le plus rock'n'roll qui soit, hein, question culture rock, c'est pas trop son univers. Donc, je pense qu'il avait un peu des frayeurs sur ça, et c'était de voir ce qu'il va me faire, l'autre jour, là. Et après, il a compris, effectivement, qu'on voulait vraiment créer des vrais, moi, mon idée, c'était de faire devenir des vrais personnages de BD, quoi. Pas que seulement les Fatales. Il fallait que ça devienne des Scooby-Doo avant. Et donc, du coup, ben, ça y a plu, on a signé, et, voilà, la BD a été enclenchée, et le tome 1 est sorti. J'espère pouvoir entamer le tome 2 sous peu, puisque Rouen bientôt va être dispo pour continuer, donc faut qu'on discute de ça. Mais voilà, le truc est parti de là, quoi, tu vois. C'est une très vieille envie, c'est vraiment, c'est très longtemps qu'on se connaît avec les Fatales, ce sont des mecs adorables. De simplicité insoupçonnée, c'est vraiment pour des gars comme ce moment-là, ils ont quand même un sacré niveau, hein, ça remplit partout, et pourtant, voilà, ils sont...
Voilà, mais c'est génial, mais ça a permis de faire, voilà, de mettre tes amis en valeur à travers une BD.
Oui, c'est devenu... oui, pour moi, c'est un accomplissement, tu vois, parce que si, effectivement, il y a quelques personnes du monde de la BD qui connaissaient pas plus que ça, les Fatales, qui peuvent être amenées à écouter du Fatal, ça serait top, et ben inversement, nous on profite des gens qui aiment les Fatales et qui vont lire la BD, même s'ils n'y aident pas particulièrement nos BD. Donc je pense que c'est un échange de bons procédés, quoi. Et en tout cas pour le moment ça tourne bien. Ils ont les BD même en concert à vendre, et ça tourne très bien côté concert, quoi, en plus des librairies, donc que demande le peuple.
C'est nickel, impeccable. Donc je vais faire plaisir à mon ami William, le papa des Sisters, que j'ai eu hier par message. Et en fait, il me dit, pose la question. Alors c'est toi qui vas y avoir droit en premier, Jean-Luc Guerrera. Petite question technique, il me dit, demande de lui s'il travaille en traditionnel ou numérique. Je transmets, je poserai la question à chaque fois au dessinateur, mais il m'a dit, ben comment ça va, Jean-Luc ? Voilà.
Alors ben, je vais répondre le truc de Normand un peu, en gros les deux en général. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai travaillé pendant longtemps, alors je le vois un petit peu venir quand il pose la question, mon William. Moi, effectivement, j'ai longtemps, pendant la majorité des albums de Droite au but, j'ai ancré, donc la dernière étape, l'ancrage, quoi, pas le crayon, tout ça, j'ai ancré sur ce qu'on appelle une Cintiq, en fait, une tablette écran, un peu comme un iPad géant, ceux qui ne connaissent pas. Et maintenant, il y a effectivement les iPad Pro qui font tout aussi bien le boulot, en plus petite taille. Donc j'ai ancré, j'ai fait la dernière étape de la création, quoi. Parce que effectivement, la BD de l'OM, droit au but, c'est la seule chose du coup que je dessine, tout le reste c'est du scénario. Ben en fait, c'est souvent amené, on l'a eu le cas encore dans le dernier album, c'est souvent amené à avoir des changements, parce que quand nous on prépare l'album, le temps qu'on finisse, que le coloriste bosse et tout, des fois un joueur a été vendu et il est plus là. Donc il faut changer. Donc les gens ne s'imaginent pas les changements qu'on a eu à faire. faire à la dernière minute parce que ben il y aura plus tel entraîneur ou tel joueur ou tout ça. Donc on fait pas vraiment la BD d'actualité du club, mais quand même on essaie de coller un peu à ce qui se passe un petit peu au moins dans la présence des bons joueurs. Et là sur le dernier, tu vois, le temps qu'on finisse, ben Dimitri Payet était parti et du coup on l'a remplacé par un joueur qui n'a strictement rien à voir ni en taille ni en gabarit, tu vois. Lui, il est plutôt petit, trapu, et c'est Aubameyang qu'on a mis, qui fait, je sais pas, 1m90 ou quelque chose comme ça, qui est quand même assez grand, filiforme, bon. Donc ça, la tablette graphique, c'est du bonheur, parce qu'on peut faire des changements assez faciles. Sur du papier, c'est plus compliqué.
D'accord.
Mais maintenant que j'ai pris le pli, ça fait quelques albums que je refais en traditionnel, maintenant. Alors, on est deux, il faut savoir qu'au dessin, pour obtenir le débit qu'on a, on a toujours été vers une personne qui est ce qu'on appelle le storyboard. Au début, il mettait, ouais, voilà, c'est un découpage storyboardé puisque le club, en fait, quand il fait le scénario avec maintenant, avec la personne qui faisait le scénario, il y a le plus grand scénariste, avant moi, il découpait pas. Tu vois, c'était pas vraiment des gens du milieu de la BD, donc du coup, c'était que des écritures, et ça, faut quand même le transformer en BD, faire le nombre de pages, faire le gabarit des textes qui fonctionnent dedans, on est obligé quand même de couper, de bricoler derrière. Donc là, il y a toujours eu quelqu'un, il y a eu Eric Schiaz pendant les 10 premiers albums, il y a Boris Golzio qui a fait l'intérim sur un album, et depuis c'est Pedro Colombo, qui est un dessinateur espagnol, et qui est un super storyboarder, qui fait vraiment un super boulot, et qui prépare un petit peu, après le scénario, prépare un peu la mise en page des pages justement. Il place les persos, crayonne un petit peu, fait le truc, il place des décors 3D, il bricole vachement la 3D, et puis donc il me place des fonds, ou alors il me met des photos des fois pour dire, ben, c'est tel endroit où ils vont et tout, la documentation, et moi après par-dessus, ben, j'agrandis, et je fais, ben, la finition, quoi.
Impeccable. Alors, ça me fait plaisir, pardon, excuse-moi, ça me fait plaisir parce que, donc, voilà, William, il m'a dit, c'est même une question que j'aurais aimé, poser il y a longtemps, donc, voilà, je fais plaisir à William. Malheureusement, mais voilà, on est pris par le timing, mon Jean-Luc. Je voulais quand même te poser, mais vite fait, parce que voir qu'est-ce que tu m'aurais répondu, au niveau du portrait chinois, il y avait une question, c'était, si tu étais une bêtise, tu serais laquelle? Et on va conclure là-dessus.
Une bêtise?
Oui. Je pense à toi de suite.
Ben, là, j'avais envie de dire à la distraction, mais je suis pas sûr que ce soit une bêtise, mais, tu veux dire, en tant que...
Oui, ou, bêtise, à la limite, que t'aurais fait petit, ou, comme ça, juste une bêtise.
Qui a été faite, ah oui, non, d'accord, une bêtise qui a été faite.
Voilà.
Une bêtise, c'est, ben, casser des choses. Moi, c'est le fait de tomber quelque chose, de casser un truc, de la maladresse, quoi, voilà.
Voilà, maladroit, d'accord.
Ça, c'est moi qui sais, ça me caractérise pas mal, en fait.
Petit côté Gaston Lagaffe.
Jamais de mauvaises intentions, mais c'est vrai que des fois, j'ai des mains en carton, quoi, et ça peut m'arriver de... Alors, je répare quand même assez facilement, je tiens à le préciser, mais c'est vrai que je peux casser, voire abîmer involontairement. Ça, c'est mes bêtises à moi, ça.
D'accord, et bien, tu vois, on va conclure sur tes bêtises, comme tu dis. On va te remercier, Jean-Luc Guerrera, d'avoir pris le temps de nous parler. Je précise aussi aux auditeurs que donc la semaine de Noël, c'est une interview des Mille et une Bulles avec Philippe Lugy, et la semaine du Nouvel An, ce sera une interview avec Christophe Arleston. Voilà, c'était pour avertir mes auditeurs, mes auditrices. Donc, merci à toi, Jean-Luc, un petit mot de la fin, si tu veux.
Bah, écoute, rien de particulier, lisez des BD, faites-vous plaisir. Hein. Parce qu'on a l'occasion d'avoir un des supports les plus accessibles, les moins chers et les qui permettent quand même de rêver sans faire des millions d'effets spéciaux et de trucs comme ça à Hollywood. Donc voilà, que les gens profitent et voilà, lisez des BD, faites-vous plaisir, faites voilà.
Eh bien, écoutez, très belle parole, Jean-Luc, merci à toi. On te retrouvera donc en podcast pour les auditeurs et les auditrices qui souhaitent donc réécouter cette émission. Merci d'avoir écouté Radio Présence Figeac 97.7 et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.
Les Mille et une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnall.